Merci d'être avec nous sur RFI, il est tout juste midi, temps universel, 13h, ici à Paris. Bienvenue, bonjour.
RFI midi, Charlotte Hydrac.
Avec à la une ce gros coup dur pour le secteur sanitaire à Gaza, l'hôpital Kamal Adwan, hôpital clé dans le nord du territoire, désormais hors service, fermé après un raid israélien et son directeur détenu selon le ministère de la Santé du Hamas. De quoi enfoncer encore un peu plus le président déchu en Corée du Sud. Selon le parquet, Yoon Suk-yeol avait autorisé l'armée à ouvrir le feu pour entrer au Parlement lors de sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre. Vers la fin du transit du gaz russe via le territoire ukrainien, le contrat en principe doit s'achever là le 31 décembre sur décision de Kiev. Décision qui va notamment affecter la Slovaquie.
RFI.
À suivre aussi notre invité, Joseph Baout, professeur de sciences politiques. Quel avenir pour le Hezbollah au Liban, le mouvement affaibli en cette année 2024 alors que le pays doit élire son président le mois prochain? On en parle dans une dizaine de minutes. Le saké, l'alcool de riz du Japon, reconnu cette année par l'UNESCO, prisé à l'étranger, mais de moins en moins consommé par les jeunes japonais. Reportage. Et puis elle était chanteuse, danseuse, mais aussi espionne, militante des droits civiques. Joséphine Baker, diva, humaniste et engagée, héroïne d'une comédie musicale en ce moment en France. Elle qui avait deux amours, son pays et puis Paris. Oui, c'était un hôpital crucial donc pour le nord de la bande de Gaza, l'hôpital Kamal Adwan, la dernière grosse structure sanitaire dans ce secteur du territoire palestinien, n'est plus fonctionnelle selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et cela après un raid israélien à proximité avec Schmitz.
Oui, tout à fait, Charlotte, avec des services clés incendiés, voire totalement détruits, l'hôpital Kamal Adwan est désormais hors service, affirme l'Organisation Mondiale de la Santé. L'OMS qui s'inquiète pour les 60 soignants et les 25 patients qui se trouvent encore à l'intérieur dans un état critique pour certains. D'après le ministère de la Santé du Hamas, l'armée israélienne a pris d'assaut l'hôpital, forçant patients et infirmières à se rassembler dans la cour et à se déshabiller dans un froid glacial. Depuis plusieurs jours déjà, le directeur de cet établissement, Hossam Abu Safiya, avait alerté sur le fait qu'il été pris pour cible. Actuellement, il serait détenu et interrogé avec des dizaines de membres du personnel médical. L'hôpital aurait servi de cachette aux terroristes, pointent les Israéliens. Ils accusent régulièrement le Hamas d'utiliser les hôpitaux pour lancer des attaques contre ses forces, ce que le Hamas dément catégoriquement. L'hôpital Kamal Adwan était le dernier encore opérationnel dans le nord de Gaza.
Avec Schmitt et sur les affirmations du ministère de la Santé du Hamas qui accuse les troupes israéliennes de détenir donc le directeur de l'hôpital. Pas de commentaire de l'armée israélienne pour le moment. Une visite annoncée aujourd'hui au fondateur du PKK, Abdullah Öcalan, emprisonné à vie sur une île au large d'Istanbul. Une délégation du parti turc pro-kurde DEM est en route après avoir obtenu le feu vert du gouvernement. La dernière visite du parti qui s'appelait à l'époque le HDP, c'était en 2015. En Corée du Sud, de nouvelles manifestations pro et anti-Yoon. Ce samedi, Yoon Suk-yeol, le président déchu après sa tentative d'imposer la loi martiale il y a maintenant près d'un mois. Et on en sait un petit peu plus sur ce qui s'est passé cette nuit-là avec un rapport du parquet sud-coréen. Selon ce rapport, le président avait autorisé l'armée à ouvrir le feu pour entrer au Parlement. Correspondance à Séoul, Camille Ruiz.
Ce sont des paroles à glacer le sang. Elles auraient été prononcées le 3 décembre dernier dans un appel téléphonique à un commandant militaire qui se trouvait aux abords de l'Assemblée. Le président aurait ordonné, je cite, de détruire les portes avec une hache si nécessaire ou encore de faire sortir les gens même si ça veut dire qu'il faut tirer. Il y a presque un mois, après la déclaration de la loi martiale, des soldats ont pris d'assaut le Parlement sud-coréen. Ils ont escaladé des barrières, brisé des fenêtres. Des hélicoptères de l'armée ont même atterri sur le toit du bâtiment. Les parlementaires ont réussi à voter le retrait de la loi martiale, mais depuis, le pays est plongé dans une grave crise politique et économique. Hier, l'Assemblée nationale a suspendu le Premier ministre et président par intérim deux semaines après la destitution de Yoon Suk-yeol. L'avocat du président estime que les informations du parquet sont biaisées. Le rapport de presque 10 pages précise aussi que le président discutait de la loi martiale avec des hauts haut responsable militaire en mars dernier. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
Des soldats nord-coréens utilisés comme de la chair à canon en Ukraine, c'est ce que dénonce Washington, alors que plusieurs militaires de Corée du Nord qui combattent aux côtés de la Russie sont morts après avoir été blessés dans la région de Koursk. C'est ce que dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les États-Unis estiment que plus de 1000 soldats déployés par Pyongyang ont déjà été blessés ou tués. Ni la Russie ni la Corée du Nord n'ont reconnu officiellement la présence de ces soldats sur le front ukrainien. L'Ukraine qui n'a pas renouvelé le contrat avec la Russie pour le transit du gaz russe via son territoire. Ce contrat expire dans quelques jours, le 31 décembre. Décision du président Zelensky qui va affecter plusieurs pays européens, un clair phage. Alors à 3 jours de l'échéance, la Hongrie et la Slovaquie accentuent leur pression sur l'Ukraine pour conserver cette voie d'approvisionnement. Et de son côté, la Moldavie se démène pour trouver des alternatives.
Oui, la Hongrie, même si elle reçoit presque tout son gaz russe par un autre chemin désormais, via le gazoduc Nord Stream à travers la mer Noire, ne veut pas renoncer au dernier mètre cube russe qui passe par l'Ukraine. Ils sont moins chers. Son premier ministre Viktor Orban proclame que Kiev enfreindrait l'accord de libre-échange avec l'UE en refusant de livrer du gaz qu'elle achèterait en Russie parce qu'il serait devenu du gaz hongrois. Les autorités slovaques, de leur côté, sont toujours en contrat de long terme avec Gazprom et elles s'activent aussi particulièrement depuis quelques jours. Le premier ministre Robert Fico s'est rendu à Moscou, après une altercation avec le président ukrainien. Il a refusé que Kiev lui livre du gaz non russe et a menacé de couper les exportations slovaques d'électricité à l'Ukraine. Quant à la Moldavie, pays candidat à l'Union européenne, mais dépendante à 70% du transit ukrainien de gaz russe, elle se démène pour importer depuis la Roumanie du gaz qui lui coûtera plus cher. En parallèle, des négociations sont en cours pour que l'Azerbaïdjan se substitue à la Russie et livre aux acheteurs européens l'équivalent des volumes de gaz russe que Gazprom ne pourra plus livrer via l'Ukraine.
Claire Fage, un week-end électoral au Tchad, triple scrutin pour élire les députés, les maires et les représentants locaux du pays. Les opérations de vote ont débuté ce samedi avec le vote des militaires et des nomades aussi avant de s'élargir demain au reste des Tchadiens. Un léger décalage de programme pour François Bayrou, le premier ministre français arrivera finalement à Mayotte lundi et non demain dimanche comme prévu initialement selon ses services. Une visite tournée vers des solutions concrètes pour l'archipel ravagé par le cyclone Chido, assure son entourage. Fini en principe les câbles enchevêtrés, les recherches désespérées pour trouver la bonne connectique. Le chargeur unique devient aujourd'hui la norme dans les pays de l'Union européenne. Un seul et même chargeur pour les téléphones, les tablettes, les appareils photos ou encore les consoles. La mesure votée en 2022 par les eurodéputés doit permettre de limiter la production de déchets électroniques. 6 mois après sa sortie en salle en France et son gros succès, Le Comte de Monte Cristo est disponible depuis quelques jours. Aux États-Unis, ce film d'aventure, inspiré du célèbre roman d'Alexandre Dumas et avec comme acteur star Pierre Niney, gros succès en France donc. Et outre-Atlantique, c'est très bien parti. La presse, en tout cas, est conquise, Constantin Jallot.
Le nombre de copies dans la salle américaine est limité, mais les critiques sont déjà dithyrambiques pour Le Comte de Monte Cristo, ce grand film de vengeance.
Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice.
Le New York Times salue une mise en scène somptueuse, jouée de manière émouvante. Le magazine professionnel Variety félicite, lui, une splendide mise à jour du classique français, intemporelle et passionnante. Des louanges qui dessinent en creux une certaine remise en question. Selon le site spécialisé Vulture, Hollywood a oublié comment faire des films comme Le Comte de Monte Cristo. L'auteur de la critique reconnaît au film français le même gabarit que les grands succès américains d'il y a une vingtaine d'années. Gladiator, Le Dernier des Mohicans ou encore Braveheart.
À partir de maintenant, c'est moi qui récompense et c'est moi qui punis.
Malgré ses recettes de plus de 100 millions de dollars dans le monde, Le Comte de Monte Cristo ne représentera pas la France aux Oscars dans la catégorie meilleur film international, devancé par la comédie musicale Emilia Pérez. D'après Variety, le distributeur américain Samuel Goldwyn Films compte néanmoins soumettre le film dans les catégories générales, c'est-à-dire de meilleur acteur, meilleur costume ou tout simplement meilleur film.
Le Comte de Monte-Cristo à la deuxième place du box-office en France cette année. Derrière, la comédie à beaucoup plus petit budget, Un petit truc en plus, carton, avec près de 11 millions d'entrées. 13h10 à Paris, 7h10 à Washington.
Charlotte Hydrac.
À suivre sur RFI, notre invité, quel avenir pour le Hezbollah au Liban, le mouvement affaibli en cette année 2024. On appelle le professeur Joseph Baoud dans quelques minutes. D'abord les sports. C'est avec vous, Florence Valmé, avec à la une du foot en Italie ce samedi. 18e journée de Serie A avec un beau duel en perspective ce soir.
L'Atalanta Bergame, leader du classement avec 40 points, se déplace sur le terrain de la Lazio Rome. La DA est dans une forme olympique avec 11 victoires consécutives en championnat. Le ballon d'or africain, le Nigérian Ademola Lookman, est notamment partisan de cette réussite avec 9 buts inscrits et 4 passes décisives depuis le début de la saison. La victoire est importante pour le club lombard qui ne compte que 2 points d'avance sur son poursuivant Naples. La Lazio Rome, elle, voudra se relancer après sa cuisante défaite face à l'Inter Milan, 6-0 lors de la dernière réception, et ainsi consolider sa place dans le top 4. Le match est à suivre dès 19h45 TU.
En Angleterre maintenant, Arsenal occupe désormais la place de dauphin derrière Liverpool en Première Ligue.
Petite victoire pour les Gunners hier soir, 1-0 face au mal classé Ipswich Town, un succès qui rapporte quand même les 3 points cruciaux afin de rester dans le top 3 du classement. Liverpool est toujours loin devant avec 6 points d'avance et un match en moins.
Allez, un petit point sur le Vendée Globe. Johan Richaume, distance Charlie Dalin.
Les deux hommes étaient au coude à coude jeudi, mais Johan Richaume a repris un peu d'avance sur Charlie Dalin. 90 000 nautiques sont environ 160 km les séparent. Sébastien Simon, troisième, n'arrive pour le moment pas à rattraper le duo de tête.
Et comme tous les jours en cette fin d'année, on revient sur un temps fort ou marquant de cette année. Une personnalité sportive, en l'occurrence, la rétro du jour est consacrée à Teddy Riner.
Teddy Riner, oui, le judoka français aura été l'une des stars des Jeux Olympiques de Paris. En décrochant 2 nouvelles médailles d'or, Teddy Riner est entré encore un peu plus dans l'histoire de son sport. Le colosse de 35 ans, d'autant plus comblé qu'il aura également allumé la vasque olympique, Eric Mamrut.
C'est l'une des plus belles semaines de ma vie, oui.
Une semaine de rêve pour Teddy Riner. D'abord choisi en compagnie d'une autre icône du sport français, Marie-Josée Pérec, pour allumer la vasque olympique, point d'orgue de la grandiose cérémonie de Paris 2024.
Bah, allumer cette vasque olympique, c'est même pas un rêve de gosse, c'est quelque chose d'inimaginable. Toute ma vie, ça va rester gravé dans ma tête.
La vasque dorée qui embrase le ciel de Paris avant qu'une autre médaille d'or ne vienne éblouir le ciel bleu de Teddy.
Médaille d'or et champion olympique, Teddy.
Je suis content, je vais vraiment savourer cette médaille, je suis content.
Le 2 août, Riner décroche en effet un troisième titre historique de champion olympique des lourds après ceux conquis en 2012 et 2016. Les changements et les sacrifices effectués après avoir loupé l'or de Tokyo en 2021 ont payé.
J'en ai bavé, je suis content d'avoir mis ce staff autour de moi, je suis content de ne pas avoir vu mes enfants pendant tout ce temps à chaque fois partir dans le pays pour me préparer. Non, je sais pourquoi aujourd'hui je l'ai fait, ça fait du bien.
Et ce bonheur va se prolonger dès le lendemain avec le par équipe. À l'issue d'une finale étouffante face au Japon, l'infatigable colosse offre aux Bleus une nouvelle couronne olympique.
Oui, c'est bon ! Waouh ! Ramener cette médaille d'or olympique tous ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Nous aurons.
Désormais quintuple champion olympique et 11 fois champion du monde, l'ogre guadeloupéen est maintenant seul dans le panthéon du judo mondial. Pas de quoi lui ôter l'envie de goûter en 2028 aux Jeux de Los Angeles.
J'aimerais bien aller en moonwalk à Los Angeles. Vous voyez ce que je veux dire ?
Teddy Riner et les Jeux Olympiques, une histoire d'amour éternel.
Mon amour, crois-tu qu'on s'aime ?
Et Teddy Riner qui a remporté il y a quelques jours la Ligue des Champions avec le PSG. Il ne participera pas en revanche au Grand Slam de Paris en février prochain en raison d'une opération à un coude.
Florence Valmé, toutes les personnalités marquantes, inoubliables de cette année 2024, ces rétro-sportives sont à retrouver sur RFI.fr. Les cartes rebattues au Moyen-Orient depuis la chute de Bachar el-Assad en Syrie et les conséquences au Liban voisin, le pays meurtri qui doit élire un président le mois prochain. En principe, une session du Parlement est prévue le 9 janvier. Alors quelle place, quel rôle pour le Hezbollah, le mouvement chiite très affaibli en 2024 après la mort de son chef et la guerre ouverte contre Israël. Bonjour Joseph Baout.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques, directeur de l'Institut Issam Fares de politique publique et d'affaires internationales à l'Université américaine de Beyrouth. Alors, d'après le dicton, si on éternue à Damas, le Liban s'enrhume. La chute de Bachar el-Assad, c'est un nouveau coup dur pour le Hezbollah libanais. Est-ce qu'il va se recentrer sur la politique interne libanaise ?
C'est ce qui est le plus naturel, logiquement, c'est ce qu'il devrait faire en priorité. Le problème, c'est que je pense qu'il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. D'abord, il y a un débat probablement au sein du Hezbollah sur d'abord l'évaluation de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui et probablement des choix à venir. Ça va être des choix très, très douloureux et probablement que cette décision ne va pas être facile à prendre. Elle est aussi informée, probablement, cette décision par les désidérata iraniens. Il faut pas oublier que le parti est extrêmement lié à son parrain régional. On ne sait pas aujourd'hui, avant l'arrivée de Trump au pouvoir, quel va être le deal que proposera l'administration américaine à l'Iran et comment tout cela va se traduire sur la place de l'Iran dans l'échiquier régional, y compris au Liban. Et troisièmement, il y a aussi le fait de savoir si Israël va continuer à se comporter, disons, de façon un tout petit peu agressive, malgré le cessez-le-feu qui a été signé.
Il y a moins.
Ce qui pourrait donner à terme des arguments à, si ce n'est pas le Hezbollah, mais à d'autres groupuscules au sud du Liban, de reprendre le choix des armes, ce qui serait évidemment désastreux pour le pays. Donc oui, logiquement, tout indique que le parti devrait se recentrer sur la vie politique. Il en a encore les moyens, il a de très gros moyens, il a une popularité, il a une démographie, il a des députés, il a des ministres, et donc il peut peser sur les grands choix politiques, dont celui essentiellement de l'élection présidentielle qui doit se jouer dans les quelques jours qui viennent.
Et justement, comment est-ce que se positionnent les différents partis, les différentes forces politiques vis-à-vis du Hezbollah ?
Écoutez, le problème, c'est que le Hezbollah a été une composante extrêmement clivante dans la société politique libanaise depuis pratiquement 2000, l'année 2000, ou même plus particulièrement depuis 2005 avec l'assassinat de l'ancien premier ministre Rafik Hariri, puis la sortie de l'armée syrienne du Liban et la mainmise pratiquement du Hezbollah sur une très grande partie des rouages de la vie politique libanaise. La classe politique libanaise a été tour à tour et parfois très hypocritement disons alliée ou je dirais accommodante avec le Hezbollah en participant avec lui à des gouvernements d'union nationale, mais en même temps dans parfois les mêmes qui travaillaient très activement disons à l'érosion et aujourd'hui peut-être même à l'éradication du parti. Ça retrouve des éléments très anciens de l'histoire politique libanaise, c'est-à-dire le fait de jouer sur des dynamiques régionales et extérieures pour affaiblir une partie interne. Aujourd'hui, la guerre israélienne contre le Liban qui a pratiquement, je dirais, éroder le Hezbollah à un point extrêmement limite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne reste plus que l'ombre de lui-même, donne des espoirs à certaines factions libanaises, à certaines parties politiques libanaises, que ce parti cessera d'exister sur l'échiquier libanais. Je crois que c'est un peu illusoire, c'est aller très vite en besogne, et c'est peut-être même dangereux dans la mesure où le parti conserve quand même une capacité d'action en interne. Il a perdu la guerre contre Israël, mais il ne l'a pas perdu contre les partis intérieurs. Son arsenal, évidemment, ne sera pas très utile dans ce genre de conflit, dans ce genre, disons, de rivalité interne, mais il peut garder encore sous le coude, comme je le disais tout à l'heure, de très grosses ressources. Reste à savoir combien la continuité, enfin la poursuite de cette énorme turbulence régionale qui pourrait peut-être demain atteindre l'Iran, va finir de le consommer probablement et comment il va se repositionner sur la scène. Mais là, vous ouvrez une question très, très grave, très dangereuse, qui est celle peut-être d'un renouveau, d'un regain de tension au sein de la vie politique libanaise, au sein du Liban. Adieu ne plaise, qui pourrait
avec une histoire très douloureuse,
pays,
oui, de voilà, guerre civile.
Qui pourrait réouvrir des pages qu'on a oubliées et qu'on a bien fait d'oublier aussi.
Le nouveau chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a assuré que la résistance va continuer. Mais est-ce que le mouvement a encore les moyens de cette résistance ? Vous le disiez, l'allié iranien, le parrain iranien a ses propres difficultés.
Alors, il y a la difficulté de l'allié iranien. Il y a aussi le fait que le parti a perdu très, très concrètement, très matériellement, pratiquement 70% de ses capacités humaines, logistiques, en armes, en munitions et en capacité de se réapprovisionner avec la chute, disons, du domino syrien. Je crois que les déclarations de Naïm Qassem sont très largement rhétoriques, adressées à son public. Il a besoin quand même de garder un certain moral face à un public qui est aujourd'hui extrêmement disons démoralisé, blessé aussi. C'est une société qui a aujourd'hui un ego très profondément blessé, qui s'est vu humilié par l'armée israélienne, qui est aujourd'hui déplacé physiquement, qui a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de biens, mobilier, immobilier. La société chiite est à reconstruire aujourd'hui. Donc le Hezbollah, qui se considère en tout cas en partie responsable de cette société, a besoin de lui remonter le moral et de continuer à la mobiliser sur le thème de la résistance. Le problème, c'est que, comme vous le disiez, cette mobilisation ne peut pas aller très loin. Et je crois qu'à un moment donné, le parti va devoir faire le choix de mobiliser sa propre société sur d'autres thématiques.
Et justement, après ces humiliations, comme vous dites, quel est le soutien populaire pour le Hezbollah? Est-ce que ce soutien s'est érodé?
Écoutez, c'est encore très tôt et presque impossible de le dire aujourd'hui. Il va falloir attendre les élections législatives dans 2 ans. Mais les signaux qu'on a déjà du terrain, c'est-à-dire de ce qu'on entend, de ce qui circule, etc., c'est qu'il y a un malaise. Il y a effectivement un très gros malaise. Je ne dirais pas qu'il y a une désertion du parti par rapport au parti de sa propre population. Probablement qu'une partie de la société chiite aujourd'hui a divorcé du parti, mais du Hezbollah, mais il reste quand même un noyau dur de militants qui va rester collé. La grande question à ce niveau va être d'abord le discours et peut-être trouver un substitut au thème de la résistance, peut-être sur un thème de politique intérieure. L'autre grande question qui est immense et sur laquelle on ne sait pas grand-chose non plus, c'est les ressources financières du parti. Une très grande partie de la popularité du Hezbollah venait du fait de ses largesses financières.
Son rôle social,
du fait qu'il
avait
construit, voilà, un état-providence au sein du Liban. Cet état aujourd'hui est très très largement mise en question, et si les ressources en provenance de l'Iran, mais aussi d'une grande partie de la bourgeoisie chiite qui soutenait ce parti, viennent à manquer, je crois que là il aura vraiment un vrai problème
beaucoup
à maintenir sa popularité.
Merci beaucoup. Merci à vous, Joseph Baoud, professeur de sciences politiques. J'ajoute concernant le Liban que les ministres français des armées et des affaires étrangères se rendront sur place de lundi à mercredi à l'occasion du nouvel an pour rencontrer notamment les militaires français de la FINUL. Bonne journée à vous. Merci encore. Les préparatifs du réveillon du Nouvel An du 31 décembre au Japon. Cette fois, il sera parfois arrosé de saké, cet alcool de riz traditionnel, breuvage millénaire qui remonte à l'ère impériale Muromachi entre le 14 et le 16e siècle. Et le savoir-faire, le processus de fabrication du saké a été récemment intégré dans la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. C'est une reconnaissance international, alors que la production de saké pourtant a beaucoup baissé au Japon et de moins en moins de jeunes boivent de l'alcool ou vraiment très rarement. Reportage à Tokyo, Bruno Duval.
Kampai, santé en japonais. Dans les bars à saké du centre-ville, la décision de l'UNESCO met tout le monde en joie.
Cette consécration internationale, c'est une si belle reconnaissance pour nos petits producteurs. Ça va les motiver comme jamais.
Le monde entier va découvrir nos si bons produits du terroir. C'est vraiment super.
Je viens de Kochi, une région réputée pour son saké. Cela me ferait trop plaisir s'il avait du succès à l'étranger. En tout cas, je ne m'en prive pas.
Moi, je suis originaire d'Okinawa, l'archipel tropical situé à 2000 km d'ici. Quand j'ai le mal du pays, il suffit d'une coupe de notre saké local, l'Awamori, pour avoir l'impression d'être de retour là-bas.
Il n'y a pas un saké. En fait, il y en a des dizaines. Chacun a sa particularité et un goût singulier en fonction de la région dont il provient et du type de riz utilisé. Cette diversité est absolument passionnante.
Shuso Imada dirige l'association regroupant les producteurs de saké. Il se frotte les mains.
En 2013, la tradition culinaire nippone a été inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Eh bien, cette consécration a eu un effet spectaculaire. Aujourd'hui, à l'étranger, on dénombre 3 fois plus de restaurants japonais qu'il y a 10 ans. Et depuis, les exportations de saké ont quadruplé. On peut donc vraiment dire que, tout comme notre patrimoine gastronomique, cette boisson a conquis le monde entier. Et ce nouveau coup de pouce de l'UNESCO va sans doute encore accélérer cette tendance.
Pour autant, malgré ce succès à l'international, l'industrie du saké va mal.
Les Japonais en consomment 4 fois moins qu'il y a 50 ans, notamment parce que nos jeunes ne s'intéressent plus au saké. Pour eux, c'est un produit suranné, destiné surtout aux personnes âgées. Et puis, ce qu'ils adorent, ce sont les boissons légèrement alcoolisées. Or, le saké est assez fort. Bref, malgré cette belle initiative de l'UNESCO, l'avenir s'annonce assez sombre. Pour changer les choses, en fait, il faudrait un sursaut civique des Japonais eux-mêmes. Une immense vague de fierté envers leur alcool national qui est devenu si populaire à l'étranger.
Les professionnels du secteur demandent au gouvernement de mener des campagnes de promotion du saké. Mais les autorités marchent sur des œufs. Il y a 2 ans, affolé par la chute des recettes fiscales provenant des ventes d'alcool, le ministère des Finances avait lancé Saké Viva, une campagne tonitruante qui avait tourné court en raison d'un tollé d'anthologie de la part des addictologues notamment, car elle incitait les jeunes à s'enivrer davantage. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Danseuse, chanteuse, mais aussi espionne et militante des droits civiques, star humaniste et engagée pleine d'énergie, Joséphine Baker est à l'honneur en ce moment dans une comédie musicale à Paris qui revient sur son parcours trépidant du ghetto du Missouri au Panthéon Carmen Huntsman.
Enfin de retour au théâtre Bobino, Miss Joséphine Baker!
Elle a enflammé les salles avec son talent, son charisme et sa jupe de banane. Mais Joséphine Baker dépasse de loin l'univers glamour et exubérant de la scène.
Joséphine Baker m'inspire la liberté, la joie, beaucoup de courage.
Nevedia, martiniquaise au corps élastique et à la voix charnelle, couronnée révélation féminine de la comédie musicale l'année dernière, incarne l'icône du musical aujourd'hui.
À chaque fois que je joue les scènes de la résistance, je me dis mais c'est incroyable cette force qu'elle avait de défendre ses convictions, même dans des moments très difficiles.
Faites 15 jours, ici.
Née pauvre dans un ghetto noir à Saint-Louis aux États-Unis et mariée à l'âge de 13 ans, Joséphine débarque dans le Paris des années folles où elle devient à 19 ans la vedette de la revue nègre et se sent libérée.
Vous savez que comme moi j'aime, rien ne peut m'arrêter.
En parallèle de son art, elle s'engage dans la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, fait passer des messages secrets dans ses partitions, rejoint le général de Gaulle en Afrique du Nord et fonde une famille arc-en-ciel en France composée de 12 enfants adoptés aux quatre coins du monde.
Quand on aime, on ne compte pas.
Entre compositions originales relevées et classiques revisitées, le compositeur Jean-Pierre Adida a mis en scène une revue entraînante en 15 tableaux où l'on croise 5 maris de la diva, mais aussi l'actrice Brigitte Bardot et la princesse de Monaco, quand Joséphine Baker, débordante de générosité, se trouve financièrement ruinée.
Mes marines, mon pas guéri, le premier s'appelait oui.
À travers un feu d'artifice de chants envoûtants et de grimaces drôlatiques, de danses virtuoses et de costumes spectaculaires, cette comédie musicale rend aussi un hommage vibrant à l'icône de la lutte contre la ségrégation. Seule femme à prendre la parole aux côtés de Martin Luther King lors du célèbre discours
I have a dream.
En 1963. Jean-Pierre Adida.
C'est quand même une histoire de lumière et d'ombre. C'est tellement d'actualité. Un moment où les communautés ont tendance à se replier sur elles-mêmes, cette universalité de Joséphine Baker, la paix avant tout, elle s'était jurée d'en faire son combat. C'est un message qui dure.
Au Voilà, Joséphine Baker, le musical à l'affiche donc du Théâtre Bobino à Paris, c'est jusqu'au 29 janvier 2025, une comédie musicale coécrite avec l'un de ses fils, Brian Bouillon Baker, elle qui disait « Je ne suis intimidée par personne, tout le monde est fait avec deux bras, deux jambes, un ventre et une tête, pensez juste à ça ». Merci de rester avec nous sur RFI à suivre, Afrique Midi, toute l'actualité africaine, juste après ceci, à tout de suite.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Novembre 1974, pour la première fois dans l'histoire, une personnalité africaine est élue à la direction de l'UNESCO. Son nom est déjà une légende. Il s'appelle Amadou Matar Mbo. Disparu cette année à l'âge de 103 ans, nous lui rendons hommage dans ce second épisode intitulé « La légende Mbo ».
La marche du monde, Valérie Nivelon.
À tout à l'heure, à 14h10, temps universel sur RFI.